Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nouveau film d'Olivier Marchal, Carbone, sort mercredi en salle. Et c'est une réussite, on retrouve le réalisateur dans un instant, aux côtés de Stéphane Woodsock. En un peu plus de 2 ans, l'humoriste Vincent De Dienne a pris son envol. Le DVD de son premier spectacle sort demain. Nous vous l'offrirons en avant-première au 32-10. Et il s'est confié sur son succès et ses projets au micro RTL de Monique Younes. Nous découvrirons nos express du jour préparés par Olivia Leray. Et puis après les bonobos au Congo, Muriel Romain part à la rencontre d'une autre espèce menacée, les éléphants du Kenya, dans un documentaire diffusé ce soir à 21h. Sur France 3, Isabelle Morini-Bosque a rencontré la comédienne.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Alors, Carbone, c'est donc le titre du nouveau film d'Olivier Marchal, qui est à voir au cinéma dès mercredi, Stéphane Woodsock. Vous avez beaucoup aimé ce film, très sombre, et vous me direz que vous m'avez dit que c'était la marque de fabrique du réalisateur, du 36 qui est des Orfèvres.
Oui, mais cette fois, Olivier Marchal signe un film qui s'éloigne de l'univers habituel des truands et des flics pour se concentrer sur un groupe d'amis embarqués dans une arnaque dont les conséquences vont les dépasser, les emporter. Carbone est tiré d'une véritable affaire d'escroquerie européenne à la taxe carbone. Le réalisateur a choisi comme héros un petit patron qui, pour sauver sa boîte, va mettre les pieds dans un engrenage tragique.
Ça reste une arnaque brillante, mais très compliquée. Donc le principe, ça a été quand même de la simplifier. Je ne voulais pas que ce film reste moral, parce qu'en fait, c'est vrai que l'idée, elle est brillante, l'arnaque, elle est brillante, mais c'est quand même 1,8 milliard d'euros au niveau français détourné, c'est quasiment 7 ou 8 milliards au niveau européen. Donc ça veut dire que ça rejaillit forcément sur les contribuables, sur nous, sur nos impôts. Donc il était hors de question que je donne une quelconque légitimité aux actions de ces gens-là. Parce que dans la réalité, ces mecs-là n'avaient pas besoin d'argent. C'est des mecs qui étaient déjà blindés, qui étaient dans le milieu affairiste franco-israélien, qui avaient beaucoup d'oseille, qui ont fait ça pour le jeu, quoi. Et pour gagner encore plus d'argent. Là, moi, le but, c'est de prendre un petit patron qui perd tout, qui va se dire avec ça, je vais sauver ma boîte, sauver mes 35 employés. Et après, le problème, c'est qu'il se laisse prendre au jeu. Dans la réalité, ça a mal fini. Et dans le film, ça finit mal aussi, parce que c'est normal que ça finisse comme ça. En tout cas, je ne voyais pas une autre fin que celle-là.
Et sur le fond, d'ailleurs, Olivier Marchal a voulu prendre ses distances avec ceux dont il s'est inspiré pour écrire Carbone. Ça n'a pas toujours été le cas.
J'ai eu un problème déontologique quand j'ai fait Les Lyonnais. Je me suis vraiment laissé emporter par cette histoire parce que quand j'étais jeune flic, j'étais très admiratif de Momon Vidal, du gang des Lyonnais. On me parlait de tous ces mecs-là. Et quand je me suis retrouvé sur le plateau, j'ai commencé à filmer des mecs qui avaient quand même braqué, flingué, tué. Et c'est vrai que ça m'a posé un problème moral. Et là, j'ai eu peur d'avoir le même problème, parce que c'est vrai que les vrais escrocs de cette histoire carbone sont, en tout cas pour moi, des gens, pour le peu que j'ai rencontré, pas très attachants et pas très sympathiques. Donc je voulais pas retomber dans le piège de filmer des gens qui ne m'intéressaient pas humainement.
Très intéressant, cette mise au point d'Olivier Marchal, qui ne joue pas dans son film, et on a confié le rôle principal à Benoît Magimel.
Oui, un des meilleurs rôles du comédien, solide, fragile, dans la peau de cet homme qui sait dès le départ qu'il prend la mauvaise direction, mais qui va aller jusqu'au bout. Difficile, évidemment, de ne pas faire le parallèle avec le destin personnel de Benoît Magimel. Écoutez Olivier Marchal.
C'est un garçon qui me touche. En fait, je suis attiré par ce qui me ressemble. Le problème de Benoît, c'est que moi, je suis parvenu à trouver les limites pour pas basculer dans quelque chose qui est une attitude un petit peu suicidaire et totalement destructrice. Moi, je pense que c'est l'écriture qui m'a sauvé. Benoît, il écrit pas, donc il est juste acteur. Il a commencé ce métier à 13 ans. Donc il s'est retrouvé un peu projeté dans tous les tourments existentiels d'un adolescent qui est devenu célèbre et qui après a découvert ce milieu qui est un magnifique métier, mais un milieu totalement infréquentable. Benoît s'est perdu un peu là-dedans et c'est ce qui fait ses qualités de jeu, comme Patrick Devers, comme Philippe Léotard, comme tous ces mecs que j'ai admirés, moi, et qui ont été des exemples. Et Benoît, pour moi, est le meilleur acteur de sa génération. C'est-à-dire, il a une hypersensibilité. C'est un gamin totalement perdu. J'étais un peu comme un grand frère pour lui.
Alors, quitte à parler de fragilité, autant continuer d'évoquer celle d'Olivier Marchal. Tiens, le sujet de l'argent, qui est donc au cœur du film Carbone. Comment vit-il, lui, sa réussite d'acteur et de metteur en scène, ce qui a forcément changé la donne financièrement?
Évidemment, je gagne de l'argent, je paye beaucoup d'impôts. Le cinéma a changé ma vie, bien évidemment, mais j'ai un peu honte. Je travaille beaucoup. Vous voyez, en 2 ans, j'ai pris 2 semaines de vacances. Donc, en même temps, l'argent, je le vole pas. Et on fait partie d'une industrie qui génère beaucoup d'argent, donc... C'est normal aussi que tant que ça marche, bon, ben, si ça marche, ça veut dire qu'on fait gagner des sous, donc ça veut dire qu'on en gagne. Mais j'ai un vrai problème moral par rapport à ça. C'est-à-dire que j'assume toujours pas ma position, en fait. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, quand je marche dans Paris, qu'il y a une terrasse de café qui est pleine, je traverse pour passer sur l'autre trottoir parce que j'ai peur du regard des autres. Et je suis resté, en fait, très proche de la base. Et parfois, je le regrette, quoi. Ça me manque un peu. C'était plus simple avant, malgré tout.
Alors Carbone, c'est le cinquième film du réalisateur Olivier Marchal. On l'a vu aussi dans une cinquantaine de films, de téléfilms et de séries. Pour terminer, je lui ai demandé simplement quel regard il portait sur son parcours.
Il y a une vraie fierté par rapport à mon père qui est mort il n'y a pas longtemps. Et je savais combien il était fier de ça aussi. Tout le monde se foutait de ma gueule quand j'étais flic. Voilà, évidemment, je répétais mes textes de théâtre et tout. Personne n'y croyait, donc c'est pas de l'arrogance. Hein, c'est une vraie fierté d'avoir réussi à aller au bout des rêves que j'avais choisis. Après, maintenant, quand il y a eu les événements, par exemple, au Bataclan, à Paris, j'étais en tournage à la Martinique, en train de faire un film, un téléfilm. Et je me suis senti inutile, quoi. J'avais envie d'être là, quoi. Voilà, j'avais envie... Parce qu'évidemment... plein de gens qui n'ont pas de fric et tout, le seul loisir qu'ils ont, c'est de se mettre un film. Et donc c'est important ce qu'on fait, mais en même temps, cette importance, je la trouve dérisoire, quoi. Et Dieu sait si le cinéma m'a sauvé la vie, parce que quand j'étais môme, ma seule distraction, c'était le cinoche, quoi. J'allais les Sergio Leone et tous les films. Voilà, j'ai découvert le cinéma dans une petite salle de quartier à côté de la pâtisserie de mes parents. Et j'y allais tous les mercredis, tous les dimanches. Il n'y avait qu'un but, c'était ça, c'était aller au cinoche, quoi. Donc je sais que c'est important, c'est vital même.
Olivier Marchal, réalisateur de Carbone, avec donc on rappelle Benoît Magimel, mais aussi Laura Smet, Gérard Depardieu, Dany, Michael Youn et quelques autres. Excellent thriller sur l'amitié, la fidélité et l'argent trop vite gagné. C'est à voir et ça sort, on le rappelle, mercredi au cinéma.
Merci beaucoup Stéphane Boutsouac. On va donc passer à nos audiences télévisées. Alors, précisons les choses de vendredi et samedi, parce que Médiamétrie a eu un problème technique ce matin et nous n'avons pas encore celle de dimanche. Ils les publieront, on verra probablement un peu plus tard. Alors, pour le week-end, vendredi et samedi.
Eh bien, en ce qui concerne vendredi et samedi, on prend les mêmes et on recommence. Colanta est en tête vendredi avec 4 900 000 téléspectateurs et 23% du public sur la 1, devant le polar Bleu Catacombe avec Patrick Chenet sur la 2. Les 300 cœurs retenant 2 300 000 fanas d'art lyrique sur la 3. Samedi, TF1 encore en tête avec 4 100 000 amateurs. Deux petits pas de deux, deux vendances avec les stars. C'est un peu mieux que la semaine dernière. Qui précède Magellan sur la 3. Taratata est en quatrième avec tout de même 2 900 000 taratophiles. C'est essentiellement ce qu'il fallait retenir du week-end.
Vous appelez ça des taratophiles,
oui. Il y a une spéciale sur les chatons qui a très bien marché.
Les chatons. Voilà. Bon, vous nous parlerez, non pas bonobo, hein, tout à l'heure. Hein.
Non, on va parler
éléphants. Éléphants kényans. Dans quelques instants,
ça
Olivier.
Ça rime.
Bien entendu.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
9h10, nos express du jour préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Les masques continuent de tomber à Hollywood après l'affaire Weinstein.
Kevin Spacey, la star d'Usual Suspect et de la série House of Cards, à son tour accusé d'agression sexuelle, a réagi cette nuit et il en profite pour faire son coming out. C'est l'acteur Anthony Rapp, 14 ans à l'époque, qui met en cause Spacey au terme d'une représentation commune à Broadway. Il l'aurait invité chez lui, amené dans son lit avant de lui faire des avances. Spacey affirme ne pas se souvenir, dit qu'il était ivre. Il ajoute que si les allégations de Rapp sont vraies, il lui doit des excuses sincères.
D'après une histoire vraie, le best-seller de Delphine de Vigan paraît dans une nouvelle édition au Livre de Poche.
À l'occasion de la sortie en salle mercredi de l'adaptation tournée par Roman Polanski, l'histoire d'une étrange relation entre une romancière et une lectrice, interprétée à l'écran par Emmanuel Seigné et Eva Green, Delphine de Vigan se confie en exclusivité sur leur jeu d'actrice à Bernard Lehu.
C'est l'occasion de voir Emmanuel Seigné dans un rôle peut-être peu habituelle en fait, dans lequel je trouve elle excelle. Je la trouve très subtile dans ce rôle-là. J'aime bien l'idée d'ailleurs qu'elle n'a pas cherché déjà à me ressembler, puisqu'évidemment Delphine est un personnage, mais pas forcément non plus à adopter les attributs de l'écrivain un peu folklorique qu'on pourrait imaginer. Et puis il y a Eva Green qui incarne le personnage de Elle. J'aime beaucoup l'idée qu'au fond, comme on ne sait pas très bien si ce personnage existe, elle a quelque chose comme ça de très étrange dans sa façon de parler, notamment Eva Green, elle est à moitié anglaise, à moitié française. Elle parle français comme si elle parlait anglais. Elle a quelque chose de très hitchcockien. Elle rend ce personnage un petit peu irréel, un petit peu contrefait. J'aime bien ça.
D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, c'est au cinéma mercredi dans l'adaptation de Roman Polanski.
Alors, on connaissait Stéphane Plaza, agent immobilier, animateur ou comédien au théâtre. Eh bien, il tourne en ce moment pour le cinéma.
Mais oui, il l'a révélé samedi dans le journal inattendu de Vincent Parisot sur RTL.
J'ai la barbe parce qu'en fait, je ne peux pas trop en parler, mais en tout cas, je suis en tournage pour le cinéma.
Ah ouais ?
Avec Didier Van Cleuvart.
Non.
Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai ce look un petit peu. Ce n'est pas un look sauvage pour attirer la gente masculine. Ouais. C'est pour faire un loser.
Ça vous va très bien.
Ça me va très bien. Voilà, ouais.
Donc, mais vous ne pouvez pas trop en parler.
En tout cas, je casse mon image et donc par la barbe, etc., de gendre idéal pour faire. Et ça va être avec Balasco, Julie Ferrier et Bernard Lecoq.
Vous pouvez quand même en parler.
Très peu.
Eh bien, nous, on vous en dit un peu plus grâce à Didier Van Cleuvart, le réalisateur. Le tournage a lieu en ce moment sur la Côte d'Azur. Le film s'appelle « J'ai perdu Albert ». C'est l'histoire d'une médium qui se retrouve avec la conscience d'Einstein. Didier Van Cleuvart explique pourquoi il a choisi Stéphane Plaza.
Parce que ça a été une évidence, après l'avoir vu toutes ces années dans ces émissions. Je suis très accro à ces émissions parce que on est dans la vraie vie décalée. Et je me suis dit depuis longtemps, cet homme a un sens de la situation, de la comédie et du contact avec les gens formidable.
Et ça promet, c'était Didier Van Cleuvart, le réalisateur.
C'est l'anniversaire d'un grand nom du cinéma français aujourd'hui.
Vous avez évidemment trouvé.
Oui.
Bon anniversaire à...
Claude Lelouch.
Celui qui filme comme il respire fête aujourd'hui ses 80 ans. Bon anniversaire.
Les Express étaient signés Olivia Loret. On va tout de suite retrouver Monique Younes. Bonjour Monique.
Bonjour.
Vous êtes venue ce matin avec le DVD du spectacle de Vincent De Dienne. S'il se passe quelque chose, qui a obtenu en mai dernier le Molière du meilleur spectacle d'humour, en 3 ans, les choses ont bien changé pour lui.
Ben oui, Vincent De Dienne est devenu célèbre. Au début du spectacle, qui tourne en France depuis le mois de février 2015, Vincent De Dienne surprend son public dès la première seconde par la nudité intégrale de son corps en tout point superbe.
Mais dans la pénombre aussi. J'ai bien souvenir.
Oui, et au repos. Alors, au fur et à mesure.
Non, mais expliquez-vous sur RTL, comment savez-vous tous ces détails ?
Mais enfin, je l'ai
dans la pénombre.
Mais enfin, écoutez, parce qu'au fur et à mesure que la lumière se fait sur scène, je vous explique, Vincent De Dienne se rhabille, ce qui est pour les spectateurs une frustration. Le spectacle étant présenté comme une mise à nu. Alors, il a été écrit par Vincent De Dienne lui-même, pour d'excellentes raisons, séduire, épater, se venger d'un premier amour, autant de mauvaises raisons toujours d'actualité.
Bah ouais, j'ai encore plein de copains à épater.
Je suis célibataire, plutôt homosexuel, ce qui ne m'empêche pas d'être viril et de gifler des jeunes femmes.
Je suis jeune quand même, je pense que ma première prof de théâtre m'a dit que tout le monde commençait le théâtre pour de mauvaises raisons. Et que les bonnes raisons, qui sont des raisons plus altruistes ou pour faire passer un texte, ça vient après. Mais au début, on monte sur scène où on écrit que pour faire son intéressant.
Je suis comédien professionnel. Toutefois, ma sexualité s'exerce dans des conditions sanitaires irréprochables.
Inconnu du grand public il y a 3 ans, Vincent De Dienne est aujourd'hui énormément sollicité. Radio, télé, cinéma et même le théâtre se l'arrache. Il jouera dès le 16 janvier prochain, sous la direction de Catherine Yégel, Les Jeux de l'amour et du hasard, de Marivaux au théâtre de la Porte Saint-Martin. Un succès qu'il a longtemps, longtemps espéré.
Quand on est adolescent dans sa chambre en Saône-et-Loire, on s'inquiète de jamais devenir quiconque. Et on se dit, si j'ai un jour du succès, si j'y arrive, je vais pouvoir me reposer, ça va calmer mes tourments et puis surtout me dire c'est bon. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le cas, qu'en fait, on est toujours inquiet de demain.
Je suis très pudique. J'aime pas trop parler de moi. En fait, on est 3 de Mâcon à avoir un peu percé. Antoine Griezmann, Alphonse de Lamartine et moi.
C'est drôle. Vincent De Dienne veut garder la tête froide. Quand il a reçu le Molière du meilleur spectacle d'humour, il a commencé par mettre la statue dans son frigo avant de la retirer.
Mais non, parce que mes yaourts commençaient à prendre le goût du Molière. Ça a commencé à contaminer tout mon frigo. Donc non, il est chez mes parents. Parce que comme j'ai un chat qui fout le bordel, je voyais venir la scène pas drôle du tout. Il allait se prendre dans le meuble où le Molière allait lui tomber dessus et où mon chat allait être assassiné par Molière.
Il a qu'à renvoyer le chat à Mâcon. Alors Vincent De Dienne pousse l'introspection assez loin en projetant des vidéos de lui enfant, en train de jouer la comédie et mettant aussi ses parents à contribution.
Mais oui, il leur fait raconter comment ils l'ont adopté. Écoutez.
D'abord, moi je voulais pas de celui-là de gamin. Je voulais l'autre à côté. Et toi, t'as pas voulu.
J'ai pas voulu. On a pris celui qui nous plaisait.
Non, moi je voulais l'autre. Et toi, tu préférerais avoir ton épagneul breton.
N'importe quoi. Enfin bon, C'est un peu vrai, oui.
Bon.
Une enfance un peu solitaire, mais gorgée de plaisir.
Vos parents qui découvrent votre spectacle, leur réaction, c'est quoi?
Je me souviens qu'ils n'ont pas dit grand-chose la première fois. Au bout d'un moment, parce que je leur ai dit, mais vous me dites rien quand même. C'est comme si je vous avais écrit une lettre et vous ne m'avez pas répondu. Et ma mère m'a dit, écoute, je sais bien qu'il y avait 200 personnes ce soir-là, mais pour moi, on n'était que tous les deux. J'ai bien aimé ça.
C'est beau. Hein. Dans son spectacle, Vincent de Dienne rend hommage aux femmes de sa vie, sa mère adoptive évidemment, mais aussi Marguerite Duras et surtout Muriel Robin, qu'il a vue pour la première fois sur une cassette VHS l'année de ses 7 ans. Muriel Robin a déterminé sa carrière, elle a vu son spectacle 2 fois.
Je suis content que ça lui plaise parce qu'elle dit qu'il y a un goût de l'écriture. Comme elle, je sais qu'elle a une attention très méticuleuse et très pointue sur la mélodie, sur le rythme et sur l'écriture. Si elle a reconnu ça aussi chez moi, je me dis que c'est bien parce que c'est la patronne quand même.
Voilà, Vincent de Dienne joue savoureusement avec la langue française. Les meilleurs moments de son spectacle sont peut-être ceux où il ne tente pas de nous faire rire. Si vous n'avez pas l'occasion de le voir sur scène, notamment à partir du 26 décembre au Folies Bergères, vous pouvez vous procurer son DVD. Il s'intitule « S'il se passe quelque chose » et il sera dans les bacs dès demain.
Et nous allons vous offrir ce DVD, dont RTL est partenaire, si vous répondez à la question de Monique.
Alors, où se trouve actuellement le Molière de Vincent de Dienne? Dans son frigo ou chez ses parents?
À vous de voir, à tout de suite.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Et nous allons parler télévision, Isabelle Morini-Bosque. On signale Broadchurch sur France 2.
Ah oui, deuxième semaine. Alors on en reparlera plus longuement lundi prochain parce que franchement, ce polar exceptionnel le vaut bien et qu'aujourd'hui, il y a tout de même plus urgent, Secret Défense.
Et forcément, puisque vous nous proposez de suivre ce soir sur la 3, Muriel Robin et le protecteur des animaux. Comment on prononce ?
Chani, très
bon. Ah bon, pardonnez-moi. Parti sur la terre des éléphants d'Afrique, très menacé. Allez, Chani.
Ah oui, et un seul chiffre prouve qu'ils sont très menacés. Ils étaient 3 500 000 dans les années 30. Pas Chani, hein, les éléphants. 1 500 000 en 79. 350 000 aujourd'hui seulement dans toute l'Afrique. Et dans 10 ans, ben, ils auront disparu. Alors, les responsables, forcément, la déforestation et le braconnage. Les vieux éléphants ont jusqu'à 100 000 euros d'ivoire sur eux, sur deux défenses. Ce trafic étant de surcroît l'une des principales sources aujourd'hui de financement des groupes djihadistes. En Jeep, Chani, au début, explique à Muriel que, certes, il y a les lions, les léopards, les hyènes qui vont voir tout ça, mais que surtout, ils vont rencontrer plus dangereux.
Il y a aussi les braconniers. C'est aussi ce qui rend la savane dangereuse parce que les bracos, ils n'aiment pas les témoins.
Ils sont comme nous, par exemple.
Exactement. C'est les endroits les plus dangereux.
Après un beau titre, tué par un braconnier, elle risquait sa vie pour son public.
Dis pas ça.
C'est quoi, là?
On va arriver à une base de rangers. Ouais. On va prendre deux gars avec nous qui vont assurer notre protection.
Ah oui, quand même. Oh, pas mal. Hello.
Hello.
T'as vu, ils sont lourdement armés. T'as une idée pourquoi?
Non.
Parce que pour moi, c'est inimaginable que tu rentres sur la terre des éléphants en voiture. Tu fais pas du tourisme. On part à pied et on fait tout le reste à pied.
Voilà, tiens, bonne fin de journée.
We are going on foot.
À pied. Oh, je t'entends. Je sens bien que tu me parles. Je crois qu'on s'est pas assez parlé à mon départ.
Voilà, en fait, elle va faire tout ça, mais sans bougonner. Elle va beaucoup faire rire. Quand j'ai rencontré Chani et Muriel, plus à l'aise avec les animaux qu'avec les gens, ils étaient tous les deux bouleversés par le massacre d'un vieil éléphant légendaire au Kenya et par le meurtre d'un anti-braconnage. Mais alors, qu'est-ce qu'ils répondent aux pragmatiques qui disent crûment qu'un éléphant n'a plus sa place dans le monde moderne, vu qu'il consomme 200 kilos de nourriture par jour et par élément et 100 litres d'eau?
Oui, après, c'est souvent des personnes qui vont avoir une vision de la planète, une vision un peu restreinte, voilà. On est tous connectés. Les animaux, une grande partie des animaux, peuvent pas vivre sans la forêt, sans un écosystème sain. L'humain, c'est pareil. Donc, si on décime les animaux, on finira par se décimer nous-mêmes. Il faut absolument que les gens comprennent ça. On a aussi besoin de sauver la nature pour nous. Si ces gens-là ont une vision du monde très égoïste, ils se fichent des animaux, il faut bien qu'ils comprennent que cette nature-là, il faut la sauver pour nous.
Et là, tu dis, il connaît le dossier. Moi, je suis là pour faire le clown dans le doc. Je ne suis pas naturologue, je ne suis pas animatologue. Évidemment qu'il y a un lien. C'est un tout, donc c'est juste ça que certains s'appliquent à casser. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, il faut garder quand même de l'espoir, mais ça devient dur. Hein.
Alors, Muriel, qui a marché des heures durant à 2 mètres derrière des éléphants, qu'est-ce qu'elle a appris ?
Non, non, je ne vais pas le dire parce que les gens vont l'apprendre. J'ai surtout ressenti une certaine délicatesse avec ses pattes. Cette smash qui marche à 2 mètres de nous, on ne les entend pas. J'ai eu le bonheur, l'honneur de jouer avec eux, leur puissance. L'éléphant de 8 mois, il vous pousse, pouf, on gicle, quoi. Donc j'ai surtout ressenti beaucoup d'intelligence. Quand Shiny me dit que maintenant, ceux qui ont des longues défenses, c'est comme les pauvres femmes qui se baladent dans certains quartiers avec beaucoup de bijoux sur elles, sont en danger. Les éléphants, quand ils ont entre 20 000 et 100 000 euros sur eux avec leur défense, mais ils le savent tellement qu'aujourd'hui, certains éléphants, quand ils sont à l'arrêt, plantent leur défense dans la terre. Vraiment, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Je crois qu'on rit un peu. Dans son... J'étais clown. Ah, mais c'était incroyable. Impossible d'être sérieuse. Bon, ben voilà. Lui, c'est spécialiste et moi, ben, je suis un peu la candide à côté.
Je vous jure, c'est vrai, les vieux éléphants plantent leur défense derrière les bosquets, dans l'eau ou dans la terre quand elle est meuble. Et ça l'agace, Muriel, qu'on dise que c'est facile pour une actrice connue d'aller faire 2-3 petits tours en Afrique, de montrer tout du doigt et de revenir.
Je veux pas la comprendre, cette phrase, même si malheureusement je la comprends un peu trop. Non, je crois pas que ce soit si facile que ça, parce que c'est très roots, quoi. Enfin, je pars pas dans un 4 étoiles. Facile. Oh là là. Non, mais je sais même pas de quoi on me parle. Vous savez, quand on est connu, on est très sollicité. Au bout d'un moment, on est honnête et on se choisit une association. J'ai par exemple une foirée, j'ai donné, j'avais pris une année sabbatique pour vraiment savoir comment fonctionnait la machine. Je suis allée voir en province les centres, etc. Et c'est moi qui ai demandé à l'époque, on était 6 à rentrer sur scène. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour... Un jour, je regarde un journal télévisé, je dis, il faut faire quelque chose d'une gamine qui dit, il n'y a pas de lumière dans cette vie, elle a 7 ans. Bah, avec Marine Jacquemin, on a déployé une énergie monumentale pour, avec la chaîne de l'espoir, faire un hôpital à Kaboul. J'ai sauvé je ne sais pas combien d'enfants aujourd'hui. Puis après, si je veux m'intéresser aux asticots, c'est ma vie. Et après, comme on est connu, on dit c'est facile. Voilà. Je ne vais jamais vers la facilité.
Voilà.
Ça s'intéresse aux asticots.
Et même Shani a appris des choses.
Je me rends compte qu'en fait, ils ont encore plein de mystères. Parfois, ils communiquent entre eux. Nous, on n'en a même pas l'idée, puisqu'ils communiquent avec des infrabasses. Donc, c'est tout un monde mystérieux derrière ces mastodontes de 7 tonnes.
Et la fameuse mémoire des éléphants.
Il faut le tester, donc il faudra repartir là-bas dans 20 ans et voir s'ils se souviennent de Muriel.
Dans 40 ans, peut-être pas, mais je peux dans 10 ans, je peux dans 20 ans. Après, je signe pas.
Voilà. La prochaine étape, ce sera le Brésil. Et les jaguars, non, honnêtement, elle fait rire, elle fait le clown, et les deux rangers lourdement armés rient beaucoup tout au long du séjour. Mais honnêtement, on y apprend des centaines de choses dedans, et c'est absolument passionnant et nécessaire.
Et ils vont en emmener d'autres ? Les célébrités,
il y aura... Non, alors, avaient commencé par plusieurs célébrités, et c'est vraiment Muriel Robin la plus authentique et la plus légitime dans le genre, et donc du coup, elle s'est prise de passion, et c'est elle la régulière de l'étape, si j'ose dire.
Parfait, Muriel Robin, qui sera par ailleurs avec Stéphane Bern dans À la Bonne Heure à partir de 11h sur RTL. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosse, vous restez avec nous. Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné le DVD de Vincent de Dienne avec Monique Younes.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Je suis très pudique. J'aime pas trop parler de moi. En fait, on est 3 de Mâcon à avoir un peu percé. Antoine Griezmann, Alphonse Delamartine et moi.
Dès qu'on dit Mâcon, ça me met de bonne humeur. Et en plus, c'est Vincent de Dienne. Alors, la question qui vous était posée, n'est-ce pas, pour gagner ce DVD, était la suivante. Où se trouve actuellement le Molière de Vincent de Dienne ? Dans son frigo ou chez ses parents ?
Alors, Monique Younes. Où il se trouve, si vous avez
dans son frigo, parce que vous savez que
mais non, il l'a enlevé parce que c'est yaourt sans tel Molière.
À cause du chat.
Mais comment ils ont fait pour trouver des auditeurs ? Parce que vous n'avez pas été aussi précis.
Mais bien sûr que si.
Je vous présente officiellement toutes mes excuses.
Vous étiez avec nous.
Si vous n'avez pas gagné. Je ne marche pas dans cette histoire. Il a dit qu'il l'avait sorti du frigo. Oui. Enfin, la seule idée qui m'a restée dans l'oreille, c'est qu'il était initialement au frigo.
Et alors, il est chez sa maman. Mais du coup, il l'a donné à ses parents.
Oh, donc, il est à Mâcon. Voilà.
Parce que le yaourt,
où étiez-vous ? On va débriefer tout ça, d'accord ? Ça va être...
Mais tout de suite.
Je dévorais votre regard de braise, bien entendu. Bon, je crois qu'on va en rester là, ça me semble bien. Voilà. Merci à toute l'équipe. Et on va tout de suite retrouver Julien Courbet.